Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Chargé par le gouvernement d'organiser les célébrations du centenaire de la séparation de l'Église et de l'État, l'Académie des sciences morales et politiques a déjà réuni deux colloques autour de cette fameuse loi de 1905. Un premier colloque au mois de février consacré à l'histoire de la séparation et un deuxième colloque les 25-27 avril dernier autour du thème « La République et les religions en régime de séparation, un siècle de pratiques institutionnelles ». À la rentrée prochaine, d'autres spécialistes se pencheront sur la laïcité dans son contexte international et enfin au mois de novembre prochain sur la laïcité en tant que valeur républicaine. Dans son livre « La République, les religions, l'espérance », Nicolas Sarkozy n'a pas hésité à engager une réflexion sur cette laïcité contemporaine marquée par la question de l'islam. De son côté, Jean Sévilla, dans son livre « Quand les catholiques étaient hors la loi », engage une double réflexion. Une première réflexion sur le passé, sur l'histoire de cette laïcité à la française exaltée sous la Troisième République, et une seconde réflexion sur la place des valeurs chrétiennes dans notre société d'aujourd'hui. Jean Sévilla, bonjour.
Bonjour.
C'est la deuxième fois que je vous reçois au micro de Canal Académie. Vous êtes journaliste au Figaro Magazine, historien. Vous venez de publier, comme je viens de le dire, « Quand les catholiques étaient hors la loi » aux éditions Perrin. Vous êtes venu à l'émission Un jour dans l'histoire il y a un an environ pour évoquer la vie extraordinaire de Zita de Habsbourg, la dernière impératrice d'Autriche-Hongrie, mais vous êtes aussi connu par le grand public pour le travail réalisé contre ce que vous appelez le terrorisme intellectuel et l'historiquement correct. Alors Jean Sévilla, ce sera ma première question. Est-ce que votre livre « Quand les catholiques étaient hors la loi » se situe dans la lignée de ces deux ouvrages que je viens de citer, « Le terrorisme intellectuel et historiquement correct » ?
Il se situe en effet dans la droite lignée des précédents, puisque il y a aujourd'hui dans l'esprit public un lieu commun selon lequel la laïcité serait le synonyme de la neutralité de l'État vis-à-vis du fait religieux et la garantie de l'impartialité de l'État en matière religieuse. Or, moi qui ai étudié l'histoire et qui ai étudié cette partie de l'histoire, j'ai voulu rappeler que ce qu'on a appelé la laïcité à la française, en effet, a produit un apaisement entre l'Église et l'État après un certain nombre d'années, mais c'est après une plus longue période, qui est une période extrêmement conflictuelle, un affrontement très violent entre l'Église et l'État, l'Église et la République. Je crois qu'il ne faut pas, si on veut connaître l'histoire, il ne faut pas la réécrire, il ne faut pas réécrire le passé au nom du présent, ni le présent au nom du passé. Donc il faut, pour connaître l'histoire de la laïcité, il faut en connaître les antécédents et il ne faut pas dissimuler que la laïcité, initialement, au XIXe siècle, était une philosophie de combat dirigée contre le catholicisme qui constituait alors numériquement la religion principale en France.
Alors vous soulignez à plusieurs reprises dans votre livre qu'il y a un oubli autour de cette loi, de cette crise qui était une crise politique et religieuse. Comment expliquer cet oubli ?
Cet oubli provient du fait que la République, je pense, dans sa mémoire longue, sait que elle n'a pas été toujours extrêmement claire. Elle a plutôt bousculé les catholiques et au fond, elle n'a pas tellement envie qu'on le rappelle. Et les catholiques eux-mêmes, dans la mesure où il y a une longue période de statu quo, eh bien, de compromis, eh bien, ne tiennent pas ce qu'on croire, raviver un combat ancien ou une guerre ancienne. Et donc, une sorte de consensus à la fois du côté de l'Église et du côté de l'État pour jeter une certaine chape de silence sur cette période d'affrontement qui date d'avant la guerre de 14. Or, moi, je crois que le devoir d'histoire doit consister à tout montrer, donc il faut raconter cette période.
Alors, dès les premières pages de votre ouvrage, vous mettez en exergue trois faits historiques révélant la violence de l'opposition entre l'Église d'une part et l'État d'autre part. Est-ce que cette crise franco-française peut se placer dans la tradition des crises de notre histoire de France, telles que les guerres de religion ou bien même la Révolution française ?
Du point de vue de la violence physique, le nombre de victimes, le type de violence a été moindre, évidemment, que pendant les guerres de religion ou que pendant la Révolution française, qui ont été des vraies guerres civiles. Là, il y a eu une violence d'État qui a engendré une réaction de la population, notamment la crise des inventaires en 1906, qui s'est manifestée par la violence. Il y a une violence d'État qui s'est effectuée à l'encontre des congrégations. Ça n'a pas débouché sur un mouvement insurrectionnel. Les fusils ne sont pas sortis ou de manière accidentelle et périphérique. Maintenant, il y a eu une période quand même d'extrême tension politique, sociale. Cette période, à l'époque, si on reprend les textes d'époque, les documents d'époque, la presse de l'époque, les catholiques ont vécu cette offensive de l'État contre l'Église, l'ont vécu comme une persécution. Il y a donc bien eu une violence d'État parce que l'anticléricalisme a été un des ciments de la classe politique de la première Troisième République, celle d'entre la République conservatrice fondée après 1870 et entre 1914. En 1879, le pouvoir au sein du régime passe aux mains de la gauche anticléricale. MacMahon, président de la République, cède la place à Jules Grévy, premier président de la République, qui est un vrai républicain, qui va nommer des gouvernements républicains, qui vont être constitués de ministres républicains. Être républicain à l'époque, ça veut dire être de gauche, être anticlérical. Et en 1879, la majorité au Parlement comme au Sénat bascule à gauche, c'est-à-dire dans la gauche anticléricale. Ce qui veut dire que entre 1879 et 1914, aucun catholique en France n'a été soit chef de l'État, soit chef du gouvernement, soit ministre. Donc les catholiques français ont été, d'une certaine manière, en situation d'exclusion politique au sein de leur propre pays. Et exclusion politique qui s'est traduite par une multiplicité de lois laïcisatrice extrêmement agressive à l'encontre de l'Église.
Est-ce que toutes ces années, notamment les années, l'apogée du laïcisme 1901-1904 que vous montrez dans votre livre, n'était pas une crise de croissance, une sorte de passage obligé pour développer et asseoir la République ?
Je ne crois pas qu'il y ait de fatalité à ce que la République soit anticléricale. C'était pas d'ailleurs le vœu du pape Léon XIII qui a appelé de ses vœux au ralliement à la République française. Son successeur, le pape Pie X, a rappelé qu'en soi, la République était un régime comme un autre. Il y a une légitimité républicaine comme il peut y avoir une légitimité monarchique ou impériale. La République est un régime parmi d'autres. Il se trouve que au XIXe siècle, l'idée républicaine en France n'est pas idéologiquement neutre. Elle est héritière de la pensée révolutionnaire en assumant toute la révolution, c'est-à-dire en assumant, y compris à l'époque, en assumant l'antichristianisme de la révolution, en assumant la terreur. Et il y a donc une violence fondatrice, une violence incluse dans l'idée républicaine qui fait que l'idée républicaine en France n'est pas un objet neutre. Des républiques chrétiennes, je dirais, il y en a eu dans l'histoire et il y aurait pu en avoir. En France, au XIXe siècle, l'idée républicaine est violemment tournée contre l'Église et contre, je dirais, une partie de l'histoire de France. La République s'est construite en France au terme d'une fracture, la fracture de la Révolution. Et donc, il y a là un pan de mémoire nationale qui doit disparaître aux yeux des Républicains, c'est-à-dire tout ce qui est le monde antérieur à la Révolution, le monde monarchique, le monde religieux, est considéré comme illégitime ou comme un reliquat du passé qu'il faut désintégrer. Donc, il y a, de ce point de vue-là, une grande violence d'État, je pense, parce que il y a un projet idéologique. Il s'agit de forger, par l'école notamment, des petits citoyens qui adhèrent complètement au projet républicain.
Alors vous citez à ce propos Jean-Pierre Machelon qui dans son ouvrage La République contre les libertés ouvrage paru aux presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Machelon n'hésite pas à parler de restriction des libertés publiques. Christian Sorel, que j'ai reçu à ce micro et invité du colloque de l'Académie des sciences morales et politiques, parle lui de loi d'exception pour les catholiques. Est-ce que c'est cette crise fut un des grands rapports de force qu'a connu la France, et peut-être le dernier grand rapport de force idéologique qu'a connu la France au XXe siècle.
Il y a peut-être eu des rapports de force idéologiques ultérieurement, mais à cette époque, oui, il y a un rapport de force idéologique, d'autant que, comme je le disais il y a un instant, cette idéologie s'appuie, est une idéologie d'État. Il y a dans la classe politique républicaine, radicale, vraiment la volonté, l'idée de fonder au fond un homme nouveau, le citoyen français qui est un être rationnel, qui ne se réfère à aucune transcendance, qui a fait du passé table rase, du passé entier, celui qui est antérieur à la coupure de la Révolution française. Il y a donc une volonté vraiment de, on peut dire idéologique, oui, il s'agit de fonder un citoyen qui est animé d'une pensée positive, récusant donc la religion traditionnelle des Français, et qui était non seulement traditionnelle, mais qui était sociologiquement la religion majoritaire en France. Je rappelle qu'en 1872, c'est le dernier recensement qui a eu lieu en France où les Français ont dû répondre à la question de leur affiliation religieuse. Et au recensement de 1872, 95,5% de la population française se reconnaît comme baptisé catholique dans un pays de 38 millions d'habitants, 95,5% de la population. Donc l'anticléricalisme va s'en prendre à la religion qui est la religion de l'immense majorité des Français.
Vous n'hésitez pas à utiliser le terme de révolution.
Oui, il y a une révolution laïque. Je pense, la formule n'est pas de moi, mais il y a une révolution laïque en ce sens que, alors que l'Église au XIXe siècle, et dans l'ensemble des sociétés occidentales d'ailleurs, assumait une présence sociale extrêmement grande, assumait un rôle social tout à fait considérable à travers ses congrégations, notamment les moines et les religieuses, l'Église était présente massivement dans l'enseignement. Il faut savoir que jusqu'aux lois Ferry, de par la loi Guizot comme la loi Fallou, la religion fait partie des matières enseignées à l'école d'État. Les religieux, les prêtres, les religieuses peuvent être enseignants dans les écoles publiques où la classe commence le matin par la prière, dans les écoles publiques où au-dessus du tableau est suspendu un crucifix, jusqu'aux lois Ferry de 81-82. Et donc, il y a une volonté de changer les mentalités, c'est en cela qu'il y a une volonté révolutionnaire, en coupant la France de ses racines chrétiennes et surtout de la présence sociale de l'Église, donc en chassant l'Église de l'enseignement, en chassant l'Église du monde de l'hospitalier. Il faut savoir que les premières écoles d'infirmières laïques datent des années 1890. Dans les hôpitaux français, pendant tout le 19e siècle, toutes les infirmières, sont des religieuses. L'Église maintenait des dizaines, même des centaines et même des milliers de maisons d'assistance, d'aide aux déshérités, aux handicapés, etc. Et donc, il y a eu une volonté d'éradiquer cette présence de l'Église dans la société française de la part des anticléricaux.
Alors, je reçois Jean Sévia, auteur du livre « Quand les catholiques étaient hors la loi », paru aux éditions Perrin. Nous nous retrouvons, Monsieur Sévia, si vous le voulez bien, après une première pause. À tout de suite.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio-Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques, les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, leur donne la parole. Connectez-vous sur www.canalacademie.com et écoutez.
Christophe Dickès.
Un jour dans l'histoire reçoit Jean Sévia. Jean Sévia, vous êtes journaliste au Figaro Magazine, vous êtes également historien. Vous venez de publier un livre consacré à la loi de 1905, vu du côté catholique, quand les catholiques étaient hors la loi, paru aux éditions Perrin. Alors nous terminions notre entretien par la place du catholicisme en France. On est étonné, en fait, au lendemain de la Révolution française, il y a un déclin véritable du catholicisme, et tout au long du XIXe siècle, il y a une renaissance. Et c'est ce que dénonce Léon Gambetta, notamment, en parlant du cléricalisme. Il dit « le cléricalisme, voilà l'ennemi ». Est-ce qu'il existe véritablement un cléricalisme ? Et quelle est sa place en France au XIXe siècle ?
Après la Révolution, qui a provoqué des destructions immenses pour le catholicisme, le pape Pie VII et Bonaparte ont signé en 1801 un concordat. Ce concordat a accordé à l'Église la liberté de culte. Au sortir de la Révolution, c'était un progrès considérable. Et a reconnu que le catholicisme était la religion de la grande majorité des Français. Bonaparte, de son propre mouvement, a introduit le concordat dans la législation française en 1802 par ce qu'on appelle des articles organiques. Ces articles organiques étaient extrêmement contraignants pour l'Église, puisque non seulement en vertu du concordat, c'est le gouvernement qui nommait les évêques et non pas le pape leur instituant l'accord canonique, mais les textes pontificaux ne pouvaient pas être diffusés sans l'accord du gouvernement, les évêques ne pouvaient pas se réunir, n'avaient pas le droit de se réunir, n'avaient pas le droit de diffuser des textes collectifs, etc. Donc on avait une Église qui était extrêmement assujettie à l'État. Il y a donc cette ambiguïté du statut concordataire qui, signé en 1801-1802 pour les catholiques, 1802 aussi pour les protestants. Par extension, en 1808, le judaïsme va aussi acquérir le statut de culte reconnu. Les ministres de ces cultes, c'est-à-dire les prêtres, les pasteurs et les rabbins, reçoivent un traitement de l'État. Mais pour ce qui concerne le catholicisme, qui est la religion extrêmement majoritaire, évidemment, il y a une ambiguïté du statut concordataire, à savoir qu'il a donné une sécurité à l'Église, qui va permettre une renaissance importante du clergé séculier, mais en même temps, il fait de l'Église, ou du moins de la hiérarchie officielle, la hiérarchie épiscopale, au fond des personnages officiels quasiment au sein de l'État. Napoléon, vous savez, disait que les évêques étaient les préfets violets. Il les appelait mes préfets violets. Donc il y a une sorte d'ambiguïté qui ne sera pas levée ni par la Restauration, ni par la monarchie de Juillet, et pas plus par Napoléon III. Les relations entre la hiérarchie épiscopale française et l'État sont bonnes parce que, tout simplement, les évêques sont nommés par l'État et payés par l'État. Et donc, les évêques, majoritairement, reflètent le pouvoir qu'ils ont nommé dans leurs opinions politiques, ou en général, ils n'ont pas d'opinion politique, mais ce sont des hommes prudents. Il y a donc, effectivement, une sorte de statut officiel de l'Église qui va déclencher l'ire d'un mouvement anticlérical très fort qui émerge, qui est l'héritier de la Révolution, qui est aussi le fruit de sa propre époque, puisqu'il y a dans l'anticléricalisme du XIXe siècle cette croyance, au fond, scientiste, comme quoi les progrès de la raison, de la science, elles vont dissiper la religion qui serait un héritage du passé.
Oui, nous sommes en plein positivisme, en tous les cas le développement du positivisme, et l'Église apparaît comme elle fait appel au surnaturel, eh bien, elle apparaît décalée par rapport à ce mouvement.
Exactement. Et donc cette situation officielle de l'Église, sous le Second Empire, les rapports entre le régime et l'Église sont bons, même s'il y a des variations qui tiennent à la politique italienne de Napoléon III, mais donc il va faire que l'opposition à Napoléon III, qui est par définition républicaine, les légitimistes, les royalistes sont un petit peu se tiennent sur le côté, eh bien va devenir anticléricale. Et donc sous Napoléon III se fait une identification qui est anticléricale, qui est républicain est anticlérical et qui est anticlérical est républicain. Et donc cette identification s'opère à cette époque et cette même classe politique républicaine anticléricale va accéder au pouvoir sous la Troisième République un peu plus tard, comme je le disais, à partir de 1879. Et là, elle a une revanche à prendre sur une situation qu'elle estime avoir été injuste, d'accord de statut officiel de l'Église, et comme il y a une volonté chez les plus extrêmes qui est vraiment déchristianisatrice, qui est affichée, eh bien le choc est inévitable.
Mais cette Église est forte.
Cette Église est forte. Le concordat a permis un relèvement du clergé séculier. Et il y a aussi, et pour le coup, j'ai parlé des congrégations tout à l'heure, les congrégations, le XIXe siècle est un grand siècle, c'est un siècle héritier de la Révolution, le siècle scientiste, le siècle positiviste, c'est aussi un siècle de foi et de foi populaire. C'est le siècle, on a le siècle de Pasteur, mais on a aussi le siècle du curé d'Ars. Et donc ce catholicisme populaire va susciter un nombre de vocations extrêmement importantes qui vont se nourrir une expansion considérable des congrégations françaises, congrégations qui ne sont pas concernées, rappelons-le, par le Concordat. Hein. Les congrégations ne dépendent que de Rome et donc n'ont rien à voir avec le Concordat. Et il y a en 1880 à peu près, il y a en France 30 000 moines ou religieux et 130 000 religieuses, plus qu'avant 1789. Donc une expansion tout à fait considérable des congrégations qui va se porter sur, comme je le disais tout à l'heure, sur l'enseignement, dans le monde de la santé. Les congrégations vont accompagner au fur et à mesure du développement du siècle l'effort missionnaire à travers l'entreprise coloniale de la Troisième République. D'ailleurs, assez paradoxalement, les anticléricaux vont se servir des congrégations et les seules congrégations qu'ils épargneront ce seront les congrégations missionnaires parce que la Troisième République n'a pas assez de personnel laïque pour faire son travail outre-mer et a donc besoin des missionnaires, des religieuses catholiques. Mais il y a donc une expansion, une église qui est très forte. Cette église forte, évidemment, suscite aussi une opposition forte.
Alors je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que l'église apparaît effectivement comme une institution qui ne sait pas s'inscrire à la fin du 19e siècle dans le mouvement scientifique ?
Ça, je ne le crois pas. Ça fait partie des mythes de l'historiquement correct. On s'aperçoit que parmi les grands chercheurs ou les grands scientifiques de l'époque, il y en a qui sont des chrétiens extrêmement sincères et pratiquants. Il y a une liberté. La papauté elle-même a toujours suscité à travers ses universités, ses grandes congrégations, notamment romaines. Enfin, l'Église est une pépinière d'intellectuels, de théologiens, de philosophes, de scientifiques aussi. Et les papes du XIXe siècle ont toujours salué la nécessité de la recherche scientifique. Et il y a eu des chercheurs scientifiques chrétiens, catholiques, tout à fait à l'aise au sein de l'Église, qui ne se sentaient nullement en contradiction, qui ne voyaient nullement de contradiction entre leur travail de scientifique et leur foi chrétienne.
Donc la République n'a pas le monopole de la science comme d'autres disaient qu'on ne doit pas avoir le monopole du cœur. Le programme républicain se met en œuvre dans les années 1880. Est-ce qu'on peut parler d'un plan défini ? Parce qu'on sent, à vous lire et en regardant l'histoire, que ces républicains sont malgré tout divisés.
Ils sont divisés entre eux, bien entendu. Il y a les républicains les plus classiques qu'on appelle d'abord, et puis qui vont se diviser entre. Il y a un programme républicain qui est défini par Gambetta d'ailleurs. C'est sous le Second Empire.
Le programme de Belleville.
Voilà. Et quand une fois que les vrais républicains accèdent au pouvoir en 1879, et ils vont se diviser en deux groupes, entre ceux qui veulent l'application immédiate du programme républicain dans son intégralité. On va les appeler les radicaux, et puis ceux qui pensent qu'il faut composer avec la réalité, louvoyer, manœuvrer, ce sont ceux qu'on appelle les opportunistes, qu'on appellera ensuite les progressistes. Il y a ces deux familles-là au sein du monde républicain. Et puis, au fur et à mesure du temps, va apparaître une troisième famille, qui est la famille socialiste, qui est encore plus à gauche, je dirais, que les radicaux. Mais ces trois familles vont se trouver fédérées par l'anticléricalisme, qui va être un ciment politique des gauches françaises jusqu'à la guerre de 1914. Ce qui fait que les catholiques, qui eux-mêmes sont politiquement divisés, vont avoir affaire à des adversaires qui sont sans doute politiquement divisés, mais qui sont en tout cas unis par une volonté commune qui est de mener une politique anticléricale qui va être mené jusqu'au bout, puisque Gambetta, programme de Belleville, avait défini le versant anticlérical du programme républicain, qui était la laïcisation de l'école, la suppression des congrégations religieuses et la séparation de l'Église et de l'État. Et par étapes, le programme républicain, en un quart de siècle, va être réalisé.
Alors pourquoi tant de temps au fond ? Parce que les républicains arrivent au pouvoir, comme vous le disiez tout à l'heure, à partir de 1877 et il y a la lutte contre MacMahon en 1919. MacMahon s'en va, les républicains ont le pouvoir, Mais la loi de séparation de l'Église et de l'État viendra que beaucoup plus tard.
Oui, alors on peut pas détailler en quelques minutes, mais il y a en effet une accélération forte au début des années 1880, et puis au début des années 1890, la politique anticléricale se calme parce que accède au pouvoir des modérés. C'est la période de l'esprit nouveau. Des hommes comme Spuller, etc., Méline, et on a des républicains plus modérés pour qui l'anticléricalisme n'est pas une nécessité primordiale. Et puis, il y a la politique de ralliement de Léon XIII qui incite les catholiques à reconnaître la République, à entrer dans le système pour y faire voter des bonnes lois. Ce qui va relancer l'affrontement très vif survient à la fin des années 1890, c'est l'affaire Dreyfus qui va accélérer le processus.
Je reçois Jean Sévillat, auteur du livre « Quand les catholiques étaient hors la loi » et nous parlons en fait de la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Nous nous retrouvons après une seconde pause.
Canal Académie. Écoutez Canal Académie, on retrouve Christophe Dickès.
Un jour dans l'histoire reçoit comme invité aujourd'hui Jean Sévillat. Jean Sévillat, vous êtes historien, vous avez écrit de nombreux ouvrages aux éditions Perrin, Le terrorisme intellectuel, historiquement correct, et vous venez de publier chez le même éditeur Quand les catholiques étaient hors la loi. Nous évoquons le sort des catholiques entre cette période 1879-1906, 1907. Vous avez montré le développement en fait, du républicanisme à la fin du 19e siècle. Et un des points qui marque votre livre, c'est que vous développez toute une partie sur le soutien d'une partie de la population à cette politique anticléricale. Parce que les socialistes, les républicains, sont des gens qui sont élus. Alors comment expliquer ce soutien? Quelles sont les raisons de ce soutien?
Alors pour minorer ce soutien, mais que je ne nie pas et que je vais expliquer, du moins pour replacer dans son contexte, où d'abord il faut rappeler qu'à l'époque les femmes ne votent pas. Les femmes votent en France, rappelons-le, depuis 1946. Donc, et les anticléricaux étaient, il y a eu des propositions de loi émises par certains députés de la droite catholique, parfois, mais beaucoup plus rarement, de la gauche, pour donner le droit de vote aux femmes. Les anticléricaux, la majorité anticléricale, étaient fermement hostiles à donner le droit de vote aux femmes parce qu'ils pensaient, avec raison, que les femmes étant, on va dire, plus conservatrices et plus religieuses, auraient voté, disons, à droite. Donc, le corps électoral ne reflète pas la composante de l'ensemble de la société. Deuxièmement, si on regarde les majorités entre la gauche et la droite à l'époque, les différences sont relativement minimes en voix. On est à 2 ou 300 000, selon les scrutins, voix près entre la gauche et la droite. Il se trouve qu'on est à l'époque dans un scrutin d'arrondissement et qui va faire que les majorités en sièges deviennent plus importantes que les majorités en voix. Ça, c'est le contexte général. Maintenant, il est certain, malgré tout, que de 1876 à 1914, toutes les élections législatives en France ont été remportées par la gauche anticléricale. Ça veut dire que, et certains historiens de l'élection ont fait des travaux, il y a eu des travaux sur cette question, il y a indéniablement un public catholique. Dans un pays où 95% des Français étaient, sociologiquement au moins, je ne dis pas qu'ils étaient tous pratiquants, mais sociologiquement étaient catholiques, ça veut dire qu'il y a des catholiques qui ont voté pour les partis anticléricaux. Alors c'est l'idée, c'est l'histoire, tout ça, c'est l'histoire de la progression de l'idée républicaine. Je pense que la droite de l'époque, sans doute, n'avait pas mesuré et n'a pas su intégrer dans son propre discours la force que pouvait avoir l'idéal républicain en tant que projet de promotion sociale, projet d'égalité de tous devant la loi, devant la chance, devant la fortune, etc. Il y avait quelque chose d'extrêmement séduisant que la droite de l'époque, sans doute, n'a toujours pas compris. Dans les années 1880-90, on est encore dans une société qui est extrêmement tributaire d'élites sociales qui sont des héritiers héréditaires. On est dans une époque où la vieille aristocratie ou la vieille bourgeoisie, les dynasties bourgeoises ont encore un grand pouvoir, et ce monde conservateur qui a des grandes vertus a aussi sûrement le défaut de ne pas voir que son discours ne passe pas toujours auprès de certaines couches populaires. À un moment où on lance l'idée d'égalité, on est dans une époque de promotion de l'individu, c'est une idée qui commence à apparaître, et bien le discours républicain au fond est en phase avec cette idée, tandis que les élites conservatrices qui ont une vision très héréditaire des hiérarchies sociales, très 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 immobiles, eh bien au fond perd du terrain au fur et à mesure que va progresser l'idée républicaine. Assez curieusement, et je le dis dans mon livre, l'Église elle-même a toujours exercé la promotion, a toujours cru dans la promotion des talents. Dans l'histoire du catholicisme, il y a des dizaines, des centaines d'hommes nés dans un milieu extrêmement simple qui ont accédé aux plus hautes charges au sein de l'Église. Le cardinal Pie, qui est un des grands cardinaux français du 19e siècle, était le fils d'un cordonnier. Mais politiquement, le monde catholique était représenté par des partis qui étaient liés à des situations sociales extrêmement traditionnelles, très très liées à l'hérédité, à la continuité. Je pense que il y a sûrement une erreur ou un manque de positionnement, un manque d'acuité intellectuelle à cette époque dans les milieux catholiques.
À cette époque, il y a également le syllabus qui condamne une certaine forme de modernité. Il y a le dogme de l'infaillibilité pontificale qui est proclamé lors du Concile Vatican I. Est-ce que il n'y a pas, en conséquence, en France, une réaction qui serait assimilable à une forme de gallicanisme?
Oui, d'une certaine manière. C'est vrai que les intellectuels en France étaient plutôt, on va dire, libéraux, qui est un terme d'ailleurs d'époque, qui n'a pas tout fait le même sens qu'aujourd'hui, et que il y a eu une quelques grands intellectuels catholiques français au XIXe siècle, mais beaucoup d'intellectuels français étaient anticléricaux, alors pas avec des degrés, des nuances, des différences très importantes, mais il est certain que le syllabus a été très peu compris en France. Syllabus qui, si on l'étudie, n'est pas si... évidemment, si on l'étudie avec les critères, si on lui applique les critères mentaux, psychologiques et politiques de 2005, c'est un texte qui surprend, on va dire ça, pour dire les choses diplomatiquement. Le sens profond du syllabus, c'est que l'Église a un message à délivrer qui n'est pas seulement lié à l'ère du temps. Maintenant, même au XIXe siècle, en 1864, quand le syllabus est publié, il n'est pas compris chez les intellectuels français, et il y a une réaction, en effet, anti-catholique, qui va s'étayer sur cette idée que l'Église, au fond, serait un étouffoir des consciences. Je crois que là, il y a eu... les papes réagiront ensuite. Léon XIII, qui était un grand intellectuel, un intellectuel de haute volée, Pie X, c'était un curé de campagne devenu un saint homme, mais devenu un curé de campagne devenu pape. Il y aura une volonté de la papauté de réagir, de redonner, mais notamment chez Léon XIII, on voit cela, de redonner à l'Église le sens de la recherche, le sens de la recherche intellectuelle, le sens de la recherche théologique. Mais il y a eu en effet une phase d'incompréhension en France entre le monde intellectuel et l'Église, c'est indéniable.
Les républicains mettent en avant la liberté de conscience. Comment réagit l'Église par rapport à ça? Elle condamne cette liberté de conscience?
elle condamne cette liberté de conscience. Alors, on est dans des concepts, évidemment, qui n'est une sensibilité qui n'est pas celle d'aujourd'hui. L'Église est héritière d'un monde de la chrétienté. Elle a essayé de lutter contre le monde issu de la Révolution, le monde des Lumières, qui fait que l'individu est libre de ses choix. L'Église de l'époque était héritière d'un monde antérieur avant la Révolution, qui était un monde de la chrétienté, où au fond la foi se confondait, était une forme de lien social, et où l'Église était au sens ecclésia, au sens latin du terme, était la communauté des citoyens se confondait avec l'Église. Le mouvement né des Lumières et de la Révolution a fait exploser cette réalité. L'Église en prendra acte au fur et à mesure. C'est un phénomène qui va s'étaler sur un siècle. Maintenant, effectivement, l'Église à l'époque condamne la liberté de conscience. Maintenant, il faut comprendre ce qu'on veut dire par là, savoir que l'Église défendait cette idée qu'il y a un lien entre, il doit avoir un lien entre la foi et la société, qu'il y a des normes supérieures aux idées personnelles d'un individu. Il faudrait aussi rappeler que les républicains qui défendaient la liberté de conscience ont eu bien peu de respect pour la liberté de conscience des catholiques eux-mêmes et notamment des religieux catholiques. De ce point de vue-là, on est à s'il y a un match, je dirais qu'il y a des torts partout. Cette liberté de conscience, elle peut être interprétée de manière très très aléatoire et à sens du côté républicain. La liberté de conscience des religieux qui ont été expulsés n'a sûrement pas été respectée.
Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises Léon XIII et vous montrez bien dans votre livre qu'il s'agit de distinguer la reconnaissance de la République d'une part et la législation d'autre part. En fait, le ralliement est un ralliement au régime, mais pas un ralliement systématique à ses lois.
Oui, et ralliement au régime, il faudrait relativiser, parce que si vous prenez les textes, la République selon Léon XIII, c'est une République, et Léon XIII reconnaît la République, mais qu'on condamne néanmoins les principes de 1789. Donc l'Église du XIXe siècle est une Église
qui est plus proche d'Aristote que de Rousseau.
Que de Rousseau, exactement, qui ne s'est pas rallié à la philosophie née du choc révolutionnaire. Simplement, dans l'esprit de Léon XIII, au fond, il fallait que les catholiques jouent le jeu du régime, c'est-à-dire participent aux élections, de façon à peser au Parlement pour y faire voter de bonnes lois. Léon XIII avait l'espoir et l'idée que les catholiques pourraient constituer un grand parti au Parlement qui deviendrait majoritaire. Ce vœu s'est avéré vain parce que les catholiques se sont divisés à partir du ralliement. Certains, beaucoup sont restés soit monarchistes et certains fidèles au souvenir impérial aussi. Le souvenir des persécutions révolutionnaires était encore extrêmement vif. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, ça n'avait guère qu'un siècle. Ça veut dire que les personnes âgées, au moment du ralliement, se rappellent que leurs propres parents, enfants, ont vécu la Révolution. Et donc, le souvenir des persécutions révolutionnaires est très vif. Et donc, il y a eu les persécutions de la Commune en 1871, le Monseigneur d'Arbois, chevêque de Paris, qui a été fusillé, une trentaine de religieux fusillés par les communards. Depuis 15 ans, une dizaine d'années, les catholiques français subissaient une politique anticléricale très vive. Donc, la méfiance des catholiques français à l'égard de la républicaine, à de l'idée républicaine, en 1892, s'explique. Je ne la justifie pas, je la constate comme un historien, je comprends. Et donc, le ralliement va échouer, il va partiellement échouer, en tout cas, il va diviser les catholiques, puisqu'il y aura, après le ralliement, des catholiques ralliés et des catholiques non ralliés qui resteront conservateurs, monarchistes ou bonapartistes. Il faut noter que les catholiques ralliés, ceux qui se sont ralliés à la République, eh bien, ont subi, de la part des anticléricaux, absolument la même vindicte que les catholiques non ralliés. Ce qui prouve bien que, pour les anticléricaux, l'enjeu n'était pas tant la République en soi que que le rapport des Français vis-à-vis de l'Église.
Alors, le temps avance, malheureusement, Jean Sévillard. Il y a de nombreuses anecdotes et vraiment, j'incite nos auditeurs à se reporter à votre livre. Vous expliquez très bien que la gratuité et le caractère obligatoire de l'école n'apparaît pas avec Jules Ferry, mais existe bien depuis au moins deux, si ce n'est trois siècles. Il y a aussi l'anecdote de la fille de Jaurès qui fait sa communion privée et que Jaurès doit justifier devant ses amis républicains. Quel bilan, d'un point de vue plus général, quel bilan peut-on faire de cette loi de séparation en 1914, donc qui constitue une première étape vers la réconciliation ?
En 1914, on n'en est pas à la réconciliation. Hein. Je veux dire, avant la guerre de 14, jusqu'à la guerre de 14, même après 1905, on reste dans un climat anticlérical extrêmement vif. Ce sont les mêmes partis qui exercent le pouvoir. Il y a une guérilla que mènent les maires, notamment dans les communes, pour vérifier à l'application stricte de la loi de 1905, puisque les maires ont de grands pouvoirs, ils sont les propriétaires des églises. Hein. Et donc on est dans ce climat. L'apaisement, il viendra beaucoup plus tard. Il va venir après la guerre de 14. La guerre de 14 a mis fin...
Cette volonté de réconciliation, d'union des Français après la Première Guerre.
Oui, c'est psychologique, c'est lié au fait que la guerre a été un grand mélangeur de couches sociales, d'hommes et de tous les milieux. Et au fond, dans les tranchées, ont combattu ensemble les enfants de l'école laïque et les enfants de l'école des curés. Et donc,
alors, à un moment, justement, vous évoquez, vous mettez en balance le dilemme des catholiques, vous montrez le dilemme des catholiques qui sont, bien avant la Première Guerre, pris entre la patrie, leur patriotisme, et la conscience catholique. Est-ce que la guerre de 14 ne permet pas à la patrie de remporter en quelque sorte la partie ?
Oui, oui. Le dilemme n'a pas été énorme, hein, parce que les catholiques français étaient très... on était dans une époque où le patriotisme était une valeur dont on n'a plus idée. Les prêtres qui ont été mobilisés, les religieux qui avaient été expulsés entre 1901 et 1904 en vertu des lois anticongréganistes sont revenus volontairement, ils étaient à l'étranger, ils ont été mobilisés puisqu'ils étaient citoyens français. La République les avait empêchés d'être religieux, mais elle avait bien besoin d'eux quand même pour s'enrôler, et ils sont revenus de l'étranger. Ils auraient pu déserter, je ne sais que faire, ou rester à l'étranger. Personne n'aurait été les chercher. Ils sont tous, ils ont tous répondu à l'appel. On était dans une époque de patriotisme, ça paraît incroyable. Mais effectivement, il y a eu, l'Église a dû leur accorder le droit de combattre, d'ailleurs, puisque normalement le droit canon interdit aux prêtres de porter les armes. Et de ce point de vue-là, la patrie, en effet, la patrie a été plus forte du point de vue de la grande civilisation. Est-ce que c'est un progrès ? C'est encore un autre débat.
Je reçois Jean Sévillard qui vient d'écrire un ouvrage, Quand les catholiques étaient hors la loi, paru aux éditions Perrin, et nous évoquons donc la loi de séparation de l'Église et de l'État, cette longue période qui s'étend de 1880 à 1914 et davantage encore, puisque nous allons voir après une dernière pause que cette question de la laïcité se pose encore de nos jours. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Toutes les générations se retrouvent sur Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves. Plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les sur Canal Académie, la première radio académique francophone. www.canalacademie.com.
On retrouve Christophe Dickès.
Nous entamons la dernière partie de notre émission. Je reçois Jean Sévillard, journaliste au Figaro Magazine et auteur du livre « Quand les catholiques étaient hors la loi » paru aux éditions Perrin. Jean Sévillard, le début de votre livre et le dernier chapitre sont des chapitres à part. Il s'intitule, votre dernier chapitre en tous les cas s'intitule « Quand la laïcité ne suffira plus à dire qui nous sommes ». C'est un chapitre plus engagé. Est-ce que la loi de 1905, Jean Sévillard, est une loi adaptée à notre époque contemporaine ?
Il ne s'agit pas tant, pour moi, le débat n'est pas tant autour de la loi de 1905, de ses applications pratiques, juridiques, etc. C'est une question plus large. Nous sommes confrontés, en effet, à la présence sur le sol français d'une religion nouvelle qui est l'islam, nouvelle sur le sol en France même. La question, aujourd'hui, on affirme que face aux différences que serait l'islam, face aux défis que représentent ces différences, puisqu'on sait que dans ses textes fondateurs, au moins, l'islam a une anthropologie qui n'est pas celle de notre société européenne. La question est posée de savoir comment peuvent se concilier cette forte minorité musulmane et de plus en plus forte, et comment peut se concilier son maintien, son identité par rapport à l'identité qui est celle de la société européenne en règle générale. Et la question, d'aucuns disent, eh bien, il faut utilise le mythe de la laïcité, disant il suffit que chacun fasse taire ses identités religieuses et on n'a plus que des citoyens qui sont sans identité et religieuse affirmée dans l'espace public en tout cas, et ils n'ont plus qu'à s'entendre. Je crois que c'est une vision un petit peu simpliste parce que, d'une part, la question de savoir si l'islam peut ou non intégrer l'idée laïque de séparation du temporel et du spirituel. Or, si on s'en tient en texte fondateur de l'islam, en tout cas, cette distinction n'existe pas. La distinction entre le profane et le sacré n'existe pas dans la version de l'islam la plus radicale, ou en tout cas la plus fidèle au texte sacré musulman. Donc la question est de savoir si l'islam peut s'adapter à ce courant. Et donc je ne suis pas moi certain que l'idéal laïque soit... je le dis pour le coup en historien, mais aussi en journaliste engagé, je ne me cache pas d'être. Je ne suis pas certain que la laïcité suffise à fournir un socle de valeurs communes suffisante pour donner une identité à toute une société. Je crois que le plein se combat avec du plein et non pas avec du creux. Or, je constate que la laïcité, c'est un idéal en creux, puisque il vise à faire oublier ou en tout cas à passer sous silence ou en tout cas à passer au second rang toutes nos références profondes à notre histoire, à notre philosophie, à nos arts qui sont liés au christianisme, puisque la société française, la société européenne est liée historiquement, a été forgée par le christianisme. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour le dire, c'est un fait d'histoire. Donc je pense que moi, plutôt que d'agiter, il faut prendre acte du fait que nous sommes dans un état laïque. J'en crois que je suis un citoyen français de 2005 et je constate cette loi, je ne la conteste pas. Mais le général de Gaulle disait la République est laïque, la France est chrétienne. Donc la question est posée de savoir, est-ce que, tout en constatant cette laïcité de l'État, est-ce qu'il ne faut pas aussi, et moi c'est ce que je crois, rappeler notre identité profonde, notre histoire. Je crois que face à l'histoire de France, eh bien, toutes les religions n'ont pas le même poids, la même légitimité. Le christianisme est chez lui en France depuis 1500 ans au moins. L'islam y apparaît depuis une trentaine d'années. Donc on n'a pas le même apport. Et donc je crois que toutes les religions n'ont pas les mêmes titres de gloire dans ce pays.
Vous citez Alain Besançon, donc, qui fait partie de l'Académie des sciences morales et politiques, qui lui envisage deux hypothèses, soit par rapport à l'islam, j'entends, soit la démocratie dissout l'islam, dont les fidèles abandonnent la foi et la pratique, soit, dit-il, se constitue une société musulmane complète avec ses élites en mesure de défendre, sinon d'imposer ses normes. Et il conclut, cet événement serait l'un des plus graves de notre histoire, ou plutôt, c'est notre histoire elle-même qui entrerait en mutation. Ce texte est issu de la revue Commentaire d'automne de 2003. Vous situez dans la même lignée.
Je partage cette inquiétude qui est celle d'Alain Besançon. Personnellement, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, je ne suis pas un islamologue. Maintenant, je partage cette inquiétude. Je crois que toute société ne peut fonctionner sur la durée que si elle a des valeurs communes. Or, l'islam a, une fois encore, une anthropologie qui n'est pas celle qui a été forgée par le judaïsme et le christianisme, par la Bible. Donc, nous avons là un problème qui est assez préoccupant à partir du moment où la minorité musulmane est numériquement croissante. Je crois tout à fait qu'on peut être un bon citoyen français tout en appartenant, en étant musulman. Je n'ai aucun mépris ni pour les musulmans ni pour l'islam, qui est une grande religion.
Vous rappelez d'ailleurs qu'il y a eu des liens entre l'islam et la France. Dans
bien évidemment, nous avons une histoire commune, une proximité commune fournie par l'histoire et la géographie. Maintenant, l'islam, quand il est sur son propre territoire historique et chez lui, je pense que nous gagnerions à affirmer que sur notre territoire historique à nous, eh bien, une société qui a été forgée par les valeurs de la Bible est chez elle. C'est ce que voulait dire le général de Gaulle quand il disait « la République est laïque, la France est chrétienne ». Je crois que pour dialoguer avec l'autre, pour avoir un rapport de différence, mais un rapport respectueux, eh bien, il faut savoir ce que l'on est soi-même. Et donc, la meilleure condition, la meilleure façon d'être respecté et de respecter les autres, eh bien, c'est d'avoir idée de sa propre identité.
Justement, vous prenez un retour à l'identité chrétienne ?
À titre personnel, tout à fait. Et je crois que nous mesurons tous les jours dans notre société ce que nous devons au christianisme et ce que nous devons à la perte du christianisme, pour être précis, puisque notre société est malheureusement très, très déchristianisée. Nos rapports, notre conception de la justice, notre conception de l'homme, des rapports entre l'homme et la femme, notre conception du pardon, notre conception du devoir envers les plus faibles, du respect que l'on doit aux enfants, aux petits, aux malades, ce sont des idées qui ont été imprégnées et forgées par le christianisme. Et si nous perdons le fil du christianisme, nous retournons à une forme de société où vont prédominer les rapports de violence, les rapports de force, qui peuvent être financiers, qui peuvent être physiques, mais on est dans une société qui connaît un processus, à mon avis, de régression vers une certaine forme de barbarie qui n'est pas sans m'inquiéter.
Alors justement, votre livre s'achève par une sorte d'espérance. On connaît le mot « le 21e siècle sera religieux ou il ne sera pas ». Vous commencez à dresser un tableau d'un certain rétablissement ?
Écoutez, après la Révolution, l'Église était en état, était totalement déconstruite, pour employer un mot à la mode. En 50 ans plus tard, l'Église s'était reconstruite avec un clergé nombreux, des congrégations. Ça veut dire qu'en 50 ans, un tissu ecclésial qui avait été détruit a pu être reconstruit. Je crois que l'histoire est faite de flux et de reflux. Et donc, si aujourd'hui nous connaissons en effet une phase de déchristianisation poussée, rien ne me dit, moi je ne crois pas à la fatalité du désenchantement du monde, selon la célèbre expression de Marcel Gauchet, rien ne me dit que dans 50 ans, nous n'aurons pas une période de réenchantement du monde et pourquoi pas une vague de re-christianisation de l'Europe.
Eh bien, Jean Sévilla, je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre « Quand les catholiques étaient hors la loi » paru aux éditions Perrin. Vous avez publié plusieurs ouvrages aux éditions Perrin. Je citerai « Le terrorisme intellectuel » qui a été réédité dans la collection Tempus. Et également le livre « Historiquement correct ». Jean Sévilla, merci.
Merci.
Et à très bientôt.
Écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.